Vous êtes sur RTL.
RTL Soir, Julien Cellier. Bonsoir Julien.
Bonsoir Isabelle, bonsoir à tous. Bienvenue dans RTL Soir pour 2 heures d'infos avec vous. Ce soir à la une, le pass sanitaire est-il toujours contrôlé? En tout cas, les policiers et gendarmes inspectent 6 fois moins les restos, bars, piscines, musées, cinémas et autres depuis la rentrée. La brigade RTL a enquêté. Les chiffres dans 10 minutes. Les autres titres de l'actualité maintenant à suivre dans votre journal. Bonsoir Marion Calais.
Bonsoir Julien, bonsoir à tous. Plus de détails ce soir sur le tir fatal d'Alec Baldwin lors d'un tournage aux États-Unis. C'était au retour de la pause déjeuner. L'acteur s'entraînait à dégainer son arme face à la caméra. Dans ce journal aussi, des astuces pour le Père Noël face aux augmentations de prix, un rapport pour cesser d'opposer nucléaire et renouvelable, et un nouveau capitaine pour le 15 de France, Antoine Dupont, prendra la tête des Bleus pour les test matchs de l'automne. Les courses dans le Quintet Plus à Marseille-Borély, il fallait jouer le 10, le 9, le 2, le 13 et le 5.
Dans un quart d'heure, l'invité de 18h15 sera le père Demester, un jésuite de 72 ans en grève de la faim depuis 15 jours à Calais pour soutenir les exilés. À 18h30, les dessous de l'actu, les dessous de la visite de Marie Le Pen en Hongrie, en quête de stature internationale. Elle a enfin décroché le rendez-vous tant attendu avec le décrié Premier ministre Orban. Ensuite, laissez-vous tenter dernière et le prix Femina attribué à Clara Dupont-Mono. 18h40, on va défaire le monde. 20 minutes de curiosité avec Cyprien Signé et l'équipe. Bonsoir Cyprien.
Bonsoir à tous.
Quel est le menu?
Ce soir, enquête, on défait le monde sur les livres des hommes et des femmes politiques. Zemmour, Hidalgo, vous découvrirez les vrais chiffres des ventes. On vous parlera aussi de cerfs aveuglés pour la bonne cause et de jardinier en cravate.
À 19h, on va refaire le match. L'OM de Cyprien va-t-il écoper d'un point de pénalité après le bouillon classique face au PSG? Jacques Cardoz, directeur communication de l'Olympique de Marseille, sera notre invité. 19h15, débat, argument. On refera le monde autour d'Éric Brunet. On parlera notamment du permis à points et puis des points réguliers sur le temps. Avec vous, Louis Baudin, bonsoir.
Bonsoir, Julien.
La tendance?
Eh ben, au mieux, hein, puisque dès demain, la perturbation d'aujourd'hui nous aura quittés. Alors, c'est vrai que le matin, elle laissera un peu d'humidité de la région Rhône-Alpes nord-est, mais en cours d'après-midi, elle aura disparu, laissant donc un temps sec quasiment partout, avec quelques éclaircies. Alors évidemment, plus belle dans l'ouest et le sud, un petit peu moins dans le nord, mais bon, ça ira mieux quand même. Puis côté température, pas de gelée demain matin en pleine, et l'après-midi, 14 à 17 degrés dans la moitié nord, c'est un peu comme aujourd'hui, 17 à 23 dans le sud.
Un détail à la fin du journal.
RTL Soir.
Le journal, Julien Cellier, Marion Calais.
Il s'entraînait donc à dégainer. On en sait un peu plus ce soir sur les circonstances du coup de feu mortel tiré par la star d'Hollywood, Alec Baldwin, la semaine passée sur le tournage d'un western.
Les tout derniers éléments avec vous, Lionel Gendron, vous êtes le correspondant d'RTL aux États-Unis. La chaîne NBC a dévoilé cet après-midi un rapport d'enquête préliminaire et on y découvre que le coup est parti au moment où l'acteur répétait son geste.
Oui, et c'est le réalisateur Joël Souza, lui-même blessé par le tir, qui a donné ces derniers éléments aux enquêteurs. La scène s'est déroulée après la pause déjeuner. Alec Baldwin était assis sur un banc dans un décor d'église et il s'entraînait donc à dégainer face à la caméra, comme le font souvent les acteurs. Le réalisateur dit avoir entendu ce qui ressemblait, je cite, à un bruit d'un coup de fouet, à un gros pan. Alina Hutchins, la directrice photo, se tient l'abdomen. Elle est touchée, trébuche en arrière. Le réalisateur qui se trouvait derrière est lui blessé à l'épaule. Soit il était assis, soit la balle a été déviée. Ce dernier ne sait pas s'il y a eu un ultime contrôle de sécurité après la pause déjeuner. Dernière information, l'accident n'a pas été filmé car l'équipe de tournage se préparait. À noter qu'hier soir, des centaines de professionnels du cinéma se sont rassemblés à Hollywood pour rendre hommage à Alina Hutchins.
Lionel Gendron, correspondant d'RTL aux États-Unis, où après ce drame, une pétition a été lancée pour interdire les armes à feu réelles sur les tournages. Elle a recueilli à l'heure actuelle un peu plus de 24 000 signatures. Au procès des attentats du 13 novembre à présent, une image forte aujourd'hui, celle de 2 papas à la barre.
Un témoignage que vous avez suivi pour RTL, Anne Le Hénaff. À la barre donc, côte à côte, Maurice et Jean-François sont venus parler du couple que formaient leurs enfants. Marie avait 22 ans, Mathias en avait 23.
Oui, deux pères côte à côte, deux pères à lunettes, aux cheveux gris, l'un en doudoune et l'autre en chemise en jean. Ils ont chacun perdu leur enfant unique ce soir-là au Bataclan. Marie et Mathias qui s'étaient rencontrés en terminale à Metz. Sous la photo des deux amoureux qui s'embrassent, les deux pères parlent à tour de rôle. Lorsque les sanglots de l'un deviennent trop lourds, l'autre lui passe la main dans le dos. La passion de Mathias, à part Marie, c'était le BMX, un petit vélo pour faire des acrobaties, dit l'un. Il voulait partir vivre aux États-Unis, raconte l'autre. Les deux papas endurent ensemble la tournée des hôpitaux, l'incertitude, l'attente, le numéro vert qui ne répond pas. On a pu voir nos enfants quelques jours plus tard, à l'Institut médico-légal, deux enfants unis dans le même linceul blanc. Puis il crée une association. On ne peut plus aider nos enfants, alors on aide d'autres jeunes. On est comme des funambules. Si on regarde devant, on arrive à avancer. Si on regarde derrière, on tombe. Les deux papas disent qu'ils sont depuis broyés par une douleur indéfinissable. Et aux accusés, non, vous n'aurez pas notre haine, mais non, on ne vous pardonnera jamais.
Bouleversant compte-rendu d'audience, signale l'ENAF pour RTL.
La plainte du préfet du Calvados après l'agression d'un maire samedi, l'élu du Faulx qui tentait de mettre fin à un rodéo sauvage a reçu deux coups de matraque. L'agresseur est toujours recherché.
RTL, 18h05, près de 5 euros de hausse en moyenne. RTL vous le révélait ce matin dans les catalogues pour Noël. Eh bien, les prix de 7 jouets sur 10 ont augmenté par rapport à l'an passé. Alors ce soir, on va donner un petit coup de pouce au Père Noël pour lui éviter de se ruiner.
Oui, premier conseil, ne pas attendre le dernier moment. Deuxième conseil, jeux de société ou jouets français à privilégier, hein, car peu ou pas impacté par la hausse du coût des transports. Et enfin, pourquoi pas se tourner vers le seconde main. Certains ont déjà franchi le pas et vous l'avez constaté dans une recyclerie de Martigues, Étienne Baudu.
Oui, à l'atelier, une ressourcerie, hein, comme ils disent. Ce sont en réalité deux immenses hangars où sont stockés, puis présentés à la vente, des milliers d'objets, des meubles, de la vaisselle, de la décoration, des livres et des jouets donc. Ils sont récupérés ou bien les particuliers viennent les déposer comme Julia cet après-midi.
Alors là j'ai apporté des peluches, des jouets dont mon fils ne se sert plus et je viens aussi moi-même me servir pour mes propres enfants ici, voilà.
Alors ils vont passer d'abord entre les mains de Gaël et Zora pour être nettoyés, testés s'il le faut et devenir présentables comme en grande surface sur leurs étagères.
On a les jeux de société sur lesquels on a vérifié le contenu de la boîte. Pour les puzzles c'est pareil, on compte les pièces et étant donné que ça nous arrive que sur la boîte il est marqué 100 pièces et qu'en fait quand on compte il y en a 104 par exemple. Donc on reconstitue le puzzle, vérifier qu'il est bien complet.
Je vois les enfants qui viennent ici acheter. Hein. Oh qu'est-ce qu'ils sont contents. Ah maman, ils sont pas chers, viens. Oh, je suis contente pour eux.
Et tous ces jouets vont trouver preneur, explique la référente Olga.
Les jouets, ça devient de plus en plus cher et en plus ils sont en rupture de stock en ce moment dans les jouets et c'est vrai que les gens nous demandent ben voilà, si on a des Barbies, si on a des jeux, mais tout se vend.
Et vous pouvez même tomber sur des jouets encore dans leur emballage d'origine.
Voilà, comme neuf. Donc le reportage d'Étienne Baudieu à Martigues pour RTL.
Allez, votre journal se poursuit dans un instant sur RTL avec du nucléaire et des énergies renouvelables. Les deux seront indispensables pour la transition énergétique. C'est la conclusion d'un rapport qu'on vous détaille juste après ça. Restez à l'écoute, à tout de suite.
RTL Soir, Julien Sellier. Julien Sellier,
RTL Soir.
Allez, bonne fin de journée, la suite de votre journal, 18h09 sur RTL. Deux ans d'études, six scénarios et une conclusion. Pour atteindre la neutralité carbone en 2050, eh bien la France ne pourra se passer ni des centrales nucléaires, ni d'éoliennes ou de panneaux solaires.
Un rapport qui remettra donc peut-être un peu d'ordre dans un débat qui a déjà commencé à enflammer la campagne présidentielle. Ce rapport, il est signé du gestionnaire du réseau électrique français, RTE, filiale d'EDF, qui le dit clairement à Virginie Garin, on ne pourra pas miser sur une seule source d'énergie.
Voilà, pas question de tronçonner les éoliennes, il faudra faire avec aussi le solaire, les barrages, l'hydrogène, et selon les scénarios, avec aussi du nucléaire, car la consommation électrique va tellement augmenter en France. On va changer de monde. Le choix a été de se débarrasser du fossile, donc les voitures, le chauffage, les usines vont tourner à l'électricité. Alors pour en produire autant, il sera techniquement impossible de construire suffisamment de nouveaux réacteurs, donc il faudra des énergies renouvelables qui devront représenter au minimum la moitié de notre production en 2050, c'est-à-dire deux fois plus qu'aujourd'hui.
Virginie, dans ce rapport, il y a notamment un scénario où la France sortirait du tout nucléaire, comme voilà. L'Allemagne. Ça, c'est possible, ça ?
Oui, mais sans relancer le charbon, un scénario avec 100% d'énergie verte, c'est techniquement possible, à condition de se dépêcher, d'investir massivement, mais ça va coûter cher, plus que si on conserve un peu de nucléaire, selon RTE. Alors, un scénario contesté par les écologistes, pour eux, cette étude de RTE a sous-estimé les coûts de construction l'option du nucléaire. Il rappelle que l'EPR de Flamanville va démarrer avec au moins 12 ans de retard et un surcoût de 16 milliards d'euros.
Une étude dont le gouvernement de son côté salue l'ambition, en tout cas. Explication signée Virginie Garin pour RTL. Cette énergie décarbonée, plus que jamais nécessaire, à moins d'une semaine de la COP26, l'ONU le réaffirme aujourd'hui. Le monde se dirige vers un réchauffement à 2,7 degrés, d'autant que les concentrations de gaz à effet de serre ont atteint des records l'an dernier, selon l'Organisation météorologique mondiale. À l'étranger, des manifestations et de morts au Soudan après un coup d'état militaire dénoncé par la communauté internationale. Le Premier ministre soudanais et tous les membres de l'autorité de transition ont été arrêtés.
Et puis un nouveau patron pour le 15 de France. Il s'appelle Antoine Dupont, on commence à le connaître. Il a 24 ans et c'est lui qui a été nommé capitaine des Bleus pour les tests matchs de l'automne à partir du 6 novembre prochain.
Jean-Michel Rascol, nouvelle distinction pour le demi de mêlée toulousain qui a déjà été désigné il y a quelques jours meilleur joueur du top 14.
Oui, on dit de lui qu'il est le meilleur joueur du monde, même si cela ne veut pas dire grand-chose. Antoine Dupont incarne le talent, l'humilité et l'ambition de la France du rugby qui accueille la Coupe du Monde dans 2 ans. Dans cet esprit, le demi de mêlée toulousain a depuis longtemps cocher la tournée d'automne qui s'avance avec en point d'orgue un choc à Paris le 20 novembre face aux joueurs dont le maillot est frappé de la fougère argentée.
Oui, évidemment que la case est cochée depuis qu'on a su qui venait, parce que c'est toujours une chance de pouvoir recevoir une équipe comme les All Blacks, surtout dans la forme dans laquelle ils sont en ce moment. Et ça faisait longtemps aussi qu'on attendait de pouvoir se confronter aux Nations du Sud. Donc c'est un immense défi qui se met devant nous, mais voilà, ça donne la motivation pour le relever.
Charles Olivon, qui se remet d'une grave blessure au genou, était à Marcoussis pour introniser le virevoltant demi de mêlée toulousain, 5e capitaine de l'ère Galtier, salué d'ailleurs par des applaudissements. Il s'agit pour l'instant d'un intérim qui pourrait déboucher sur un CDI si les Bleus parvenaient à séduire cet automne avec la clé, vous l'avez compris, un succès sur les All Blacks.
Voilà, c'est ce qu'on souhaite exactement. Premier rendez-vous pour suivre ce capitaine et ses hommes le 6 novembre.
Octobre, France-Argentine, 21h, Stade de France.
Exactement, merci Jean-Michel Rascol. En Chine, un peu plus de 100 jours des JO d'hiver, tour de vis des autorités face à la crainte d'une reprise épidémique. À Pékin, le marathon de la semaine prochaine a été reporté. Les habitants sont également priés d'éviter tout voyage non essentiel.
RTL Soir, la bonne nouvelle du jour.
Et la bonne nouvelle, c'est ce geste d'un patron à destination de ses salariés. Émeric Brousseau, dont l'entreprise fabrique des chaussettes à Carre, en Haute-Vienne, va verser à tous ses salariés un chèque de 200 euros, son indemnité inflation à lui, pour remercier et accompagner ses salariés.
On ne peut pas, aujourd'hui, en tant que patron, regarder la situation et rien faire. Nous, on a tout perdu en 2006 avec mes parents. Je sais ce que c'est d'avoir les fins de mois plus que compliquées, quoi. Les salariés sont épuisés, ils sortent du Covid, ils ont du mal à se remotiver. Puis là, ils commencent à se prendre les coups de massue à droite à gauche. Nous, on est en milieu rural, et on a des salariés qui font entre 20 et 30 kilomètres pour venir travailler. Donc ceux-là, il faut absolument les garder, leur dire merci de venir bosser. Ok, on gagnera un peu moins de sous cette année, ça c'est sûr, mais au final, c'est un petit coup de motivation, quoi. Si on n'a pas de salariés, ben, on peut mettre la clé sous la porte.
Émeric Brousseau, dont les chaussettes habillent notamment Stromae, et qui plus que jamais mérite... Un patron formidable.
Avec Sébastien Roussel pour RTL. Merci, formidable Marion, on vous retrouve tout à l'heure.
Le
non moins formidable Louis Baudin enchaîne. Avec un temps formidable ou pas ?
Presque, puisque demain, de nouveau, ça devrait s'améliorer. Alors le matin, il restera encore beaucoup de nuages, des brouillards liés à la perturbation d'aujourd'hui, notamment dans l'Est. Déjà beaucoup de soleil près de la Méditerranée, avec du Mistral et de la Tramontane demain matin. En cours d'après-midi, finit la perturbation, donc retour d'un temps sec pour tout le monde. Mais attention, des nuages nombreux entre Normandie, Île-de-France, dans le centre, le nord du Massif central, ou encore près des frontières du Nord-Est. Plus de soleil de la Bretagne à l'Aquitaine, et puis près de la Méditerranée, là toujours du grand ciel bleu avec l'aide du Mistral. Et de la Tramontane jusqu'à 70 km/h. Côté température, demain matin, comme nous aurons des nuages durant la nuit, peu ou pas de gelée en plaine, souvent entre 5 et 10 degrés. L'après-midi, 14 à 17 degrés dans la moitié nord. C'est comme aujourd'hui cette saison, 17 à 23 degrés dans la moitié sud.
Merci Louis.
La brigade RTL Soir.
Et maintenant, sur RTL, on va se poser cette question. Est-ce que les forces de l'ordre contrôlent toujours autant le pass sanitaire ? Est-ce qu'il y a eu du relâchement chez les restaurateurs, par exemple ? Ce sont des chiffres, ce sont des infos RTL. On va poser 3 questions à notre brigade. Bonsoir Guillaume Chiez.
Bonsoir.
Premier constat, depuis la rentrée, c'est vraiment marquant. Les policiers et gendarmes contrôlent 6 fois moins les clients dans les restos, ciné, musées, bars et j'en passe.
Oui, puisqu'au mois d'août, il y a eu 180 000 contrôles et ces deux derniers mois, seulement 60 000. Ça s'explique par le fait que policiers et gendarmes avaient été massivement déployés dès le début pour inciter les clients à ne pas tricher, mais aussi montrer aux restaurateurs et à tous les autres établissements qui reçoivent du public que le contrôle du pass sanitaire est quelque chose d'obligatoire.
En revanche, Guillaume, désormais, quand il y a un contrôle, les sanctions tombent vraiment pour les clients.
Oui, cet été, les forces de l'ordre dressaient une contravention tous les 135 contrôles en moyenne. Et bien depuis le mois de septembre, c'est une contravention tous les 65 contrôles. En clair, quand la police ou la gendarmerie décide de vérifier si tout le monde joue le jeu, et bien il y a désormais deux fois plus de contrevenants chez les clients. Et les infractions, elles, sont toujours les mêmes. Soit la personne contrôlée n'a pas de pass sanitaire, soit elle présente un pass qui n'y appartient pas.
Est-ce que les restaurants joue encore le jeu?
Alors ça, c'est difficile de répondre à cette question parce qu'on n'a pas de chiffres disponibles pour les comparer. Ce que l'on sait, en revanche, c'est que depuis cet été, plus de 35 000 établissements recevant du public ont été inspectés par les forces de l'ordre et que seulement 3% d'entre eux ont été sanctionnés car ils ne contrôlaient pas les passes sanitaires de leurs clients.
Les chiffres et les infos RTL de notre brigade. Merci beaucoup Guillaume Chaise. On va marquer une petite pause et dans un instant, notre invité sur RTL sera un père jésuite. Il a 72 ans. Le père Demester est en grève de la faim depuis 15 jours pour soutenir les exilés sur les côtes des Hauts-de-France. Il est menacé, mais il tient bon et il interpelle le gouvernement. À tout de suite.
RTL Soir avec Julien Cellier. Julien Cellier, l'invité d'RTL Soir.
Allez, vous écoutez RTL, bonne fin de journée. Et ce soir, notre invité est un père jésuite, septuagénaire, le père Demester. Il est en grève de la faim depuis maintenant 2 semaines dans une église de Calais pour dénoncer le sort et les conditions de vie réservées aux migrants sur ce littoral des Hauts-de-France. Bonsoir Philippe Demester.
Bonsoir à vous.
Vous avez cessé de vous alimenter, tout comme 2 militants depuis 2 semaines maintenant. Déjà, comment vous sentez-vous? Est-ce que vous tenez?
La question m'est souvent posée et les amis me disent qu'il ne faut pas que je dise que je vais très bien. Pourtant, je dirais toujours, même 15 secondes avant ma mort, que je vais très bien, par respect pour tous les gens qui vont mal et qui sont dehors. Moi, malgré tout, en tout état de cause, je bénéficie de conditions de vie, même si c'est dans une église, etc., qui sont pas, je veux dire, enviables en tant que telles, mais qui sont satisfaisantes.
Vous êtes arrivé en 2016 à Calais, vous portez ce combat depuis maintenant plusieurs années. Pourquoi avoir choisi là maintenant d'entamer cette grève de la faim? Est-ce qu'il y a eu un événement déclencheur?
Parmi toutes les raisons qui peuvent s'additionner, il y en a une qui est essentielle, c'est le contexte de la campagne électorale. L'enjeu, c'est une minorité de l'électorat, mais qui peut faire basculer les élections dans un sens ou dans un autre. Donc, comme souvent, les exilés sont simplement une monnaie d'échange, un objet de marchandage qui n'a plus rien à voir avec le fait qu'ils sont des personnes humaines.
L'Église catholique estime que le refus de s'alimenter ne doit être utilisé qu'en dernier recours. Est-ce que c'est le dernier recours? Est-ce que vous avez la sensation d'avoir épuisé quelque part les autres moyens d'action?
De toute façon, il s'agit de sortir de quelque chose qui est devenu habituel. On s'habitue à l'intolérable. Pour les personnes exilées, il s'agit ici de dire « ça suffit ». Parce qu'effectivement, il y a quelque chose qui est de l'ordre du répétitif, d'un éternel retour. Oui. À quoi il s'agit de dire « c'est fini maintenant ». Donc, il est important de pouvoir passer à autre chose et de prendre des décisions qui marquent un arrêt d'une politique qui ne mène à rien.
Vous parlez de décisions, vous demandez notamment une trêve hivernale, des expulsions aussi pour les migrants. Vous dénoncez un harcèlement des forces de l'ordre. Concrètement, qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'est-ce que vous voyez sur le terrain? Que les policiers leur retirent leurs tentes, détruisent les campements?
Donc, c'est jour après jour, soit le matin, soit l'après-midi, de façon à faire peser un climat d'incertitude où les policiers se présentent autour des zones où les hébergés cherchent à stationner pour la nuit. Donc je disais, tous les biens qui semblent être abandonnés sont confisqués par la police et puis emmenés, donc avec les effets personnels souvent. Il y a un mépris complet pour toutes les affaires, les seules affaires, pauvres biens qui sont ceux des exilés. Parfois il s'agit de leurs papiers ou de leurs téléphones.
Vous parlez de harcèlement, vous êtes aux côtés de ces exilés depuis 5 ans. Comment ils vivent cette impossibilité de s'établir quelque part, ne serait-ce que d'établir un campement, de s'installer depuis le démantèlement de la jungle?
Déjà, je veux dire que ça les stimule pour passer le plus vite possible de l'autre côté. Ça, c'est un premier point. Mais secondo, psychologiquement, c'est quelque chose d'usant. parce que effectivement, il n'y a aucun lieu où il puisse y avoir un vrai répit.
Vous parliez de départ de l'autre côté. Vous avez récemment installé des stèles en bois pour rappeler que plus de 300 migrants ont péri en tentant de traverser vers l'Angleterre ces derniers mois. C'est vrai que ces traversées se multiplient. Encore une quarantaine de personnes secourues en mer ces derniers jours. Quand vous échangez avec ces exilés qui rêvent du Royaume-Uni, est-ce que vous tentez de les dissuader? Est-ce que vous y arrivez parfois?
Pour les mineurs, par exemple, qui normalement doivent être pris en charge par le département, on peut plaider auprès d'eux qu'il y a des opportunités qui sont possibles ici en France. Pour les autres qui ont déjà passé, par exemple, 3-4 ans en Allemagne, qui ont travaillé en Allemagne, qui ont appris l'allemand, qui le parlent à la perfection, etc., et qui ont été jetés dehors, voilà, ils savent bien qu'avec le système qu'on appelle Dublin, je veux dire, ils ont peu de chances d'obtenir l'asile en France. Donc la seule carte qu'il leur reste à jouer, c'est de tenter le passage au Royaume-Uni où, bah voilà, au moins il y a une perspective qui s'ouvre à eux.
Ces exilés que vous aidez au jour le jour, ils viennent de quel pays ?
Donc principalement, ce sont des Soudanais, Érythréens, Éthiopiens, Afghans, Syriens, et puis de plus en plus des subsahariens.
Votre église a été ciblée par une campagne d'affichage de militants d'extrême droite ces derniers jours avec des tracts d'une grande violence, vous traitant de collabos. Est-ce que vous vous sentez menacé?
Oui, c'est vraiment pour moi complètement indifférent. Puis j'ai pas peur des menaces. J'ai toujours vécu dans des milieux où voilà, il faut être sur ses gardes. Donc vraiment, alors ça n'évoque, ça soulève en rien chez moi une crainte ou quoi que ce soit.
Ça ne vous a pas choqué de tels affichages, de tels tracts jusque dans votre église?
Non, pas du tout, parce que bon, déjà, je veux dire, pour moi, les personnes qui ont fait ça, bon, je veux dire, ils doivent pas trop savoir bon ce qu'ils disent ni ce qu'ils font. Et puis pour moi, c'est plutôt bon signe, c'est-à-dire que notre action, ben voilà, elle remue.
Elle remue. Vous en êtes où du dialogue avec les autorités? Il y a eu une discussion avec la sous-préfecture. Est-ce que vous aimeriez pouvoir accéder à un échelon supérieur, échanger directement avec le ministre de l'Intérieur? Qu'est-ce que vous avez envie de dire à Gérald Darmanin?
Écoutez, je pense que actuellement, ils essaient de différer, de nous emmener dans des manœuvres de diversion. Or, nos questions, elles appellent un oui ou un non. Donc ça a le mérite d'être clair. Et on a travaillé nos demandes de façon à ce qu'elles ne laissent pas voie à des échappatoires.
Tant que vous n'aurez pas de oui comme réponse à votre question, vous êtes prêt à maintenir cette grève de la faim?
Pour moi, le premier horizon que je me suis fixé, donc, c'est le 2 novembre. Parce que le 1er novembre commence la trêve hivernale. Donc le 2 novembre, je verrai si éventuellement il y a eu deux jours sans éviction. Et puis, je tiens au 2 novembre, parce que dans l'Église catholique, c'est le jour où on célèbre la mémoire des défunts. Et pour moi, ce sera l'occasion encore de faire valoir la mémoire de ces plus de 300 personnes qui sont mortes depuis le début du siècle, en tentant de traverser la frontière.
Merci Philippe Demester d'avoir été ce soir notre invité depuis Calais. Vous, le père jésuite, en grève de la faim pour dénoncer le sort, les conditions de vie réservées aux migrants sur ce littoral des Hauts-de-France. Merci d'avoir été ce soir notre invité.
Merci de votre attention. Au revoir.
Tous vos rendez-vous préférés sont à réécouter sur rtl.fr.
Alors, on remarque une petite pause et ensuite RTL Soir va continuer avec les dessous de la visite de Marine Le Pen en Hongrie. La candidate RN va enfin rencontrer le Premier ministre Orban. Comment tente-t-elle d'acquérir justement cette stature internationale qui semble lui manquer? Notre envoyé spécial va tout vous expliquer juste après ça. Tout de suite.
RTL Soir, Julien Sellier.
Et RTL Soir, à vos côtés, il est 18h30.
RTL Soir, avec Julien Sellier.
Et on refait un petit point sur les grands titres de l'actualité si vous nous rejoignez à l'instant. Marion Calais, c'est à vous.
Ce sont des chiffres qu'RTL vous dévoile ce soir sur le contrôle des passes sanitaires dans les établissements recevant du public. Depuis la rentrée, les clients ont été 6 fois moins contrôlés par les forces de l'ordre. Au total, près de 2300 verbalisations pour non-présentation d'un pass sanitaire valide. Il pourrait devenir un élément clé dans la lutte contre le Covid. Le traitement du laboratoire américain Merck va faire l'objet d'un examen accéléré devant l'Agence européenne du médicament. Et puis les derniers éléments sur le coup de feu mortel lors d'un tournage aux États-Unis. La star Alec Baldwin s'entraînait à dégainer au moment où le coup de feu est parti.
Merci Marion, bonne soirée. Le temps maintenant, Louis, pour demain, alors pas mal.
Oui, pas mal. En tout cas, on va pouvoir ranger le parapluie. Alors pas le matin, il restera les effets de la perturbation d'aujourd'hui dans les régions de l'Est, de la région Rhône-Alpes à l'Alsace, avec encore un peu de pluie le matin. Mais en cours d'après-midi, fini le temps humide, on retrouvera du temps sec avec plus ou moins de nuages, un peu plus de nuages du massif central à la frontière belge, un petit peu moins de la Bretagne jusqu'à l'Aquitaine. Et puis grand soleil également dans l'extrême sud, notamment près de la Méditerranée avec l'aide du Mistral et de la Tramontane. Et puis côté température, pas de gelée demain matin en plaine. 14 à 17 degrés l'après-midi dans la moitié nord. C'est comme aujourd'hui, 17 à 23 degrés dans la moitié sud.
Merci Louis.
RTL Soir. Les dessous de l'actu.
Et ce soir, dans les dessous de l'actu, on vous emmène à Budapest, en Hongrie, dans les valises de Marine Le Pen. La candidate du Rassemblement National rencontrera demain l'autoritaire Premier ministre Viktor Orban, décrié en Europe pour sa politique anti-migrant, anti-LGBT. C'est le chef de file d'une droite nationaliste. Marie Mollet, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes l'envoyée spéciale de RTL. Marine Le Pen est en quête d'une stature internationale. C'est l'objectif du voyage et elle espérait d'ailleurs cette rencontre, ce rendez-vous depuis de longues, longues années.
Oui, exactement. Alléluia. Enfin, hein, cela fait des années que Marine Le Pen attend ce moment, une rencontre avec Viktor Orban. Alors en posant le pied sur le tarmac ce matin, elle s'est précipitée pour se prendre en photo, cliché dans les voitures du cortège officiel. Le Graal. Car jusqu'ici, Viktor Orban avait toujours refusé de la voir. Il en faisait même étalage dans la presse. « Je n'ai aucune relation avec Marine Le Pen », disait-il encore en 2019. Alors depuis, que s'est-il passé? D'abord, Viktor Orban s'est éloigné de la droite classique en Europe. Il a quitté le PPE, vous savez, le groupe conservateur au Parlement européen, dans lequel siègent par exemple les LR, les Républicains. Et puis surtout, il a en ligne de mire des élections. Les législatives en avril 2022, qui s'annoncent serrées. Il y a un vrai suspense. Et donc, tout soutien est bonne à prendre. Donc pour Marine Le Pen, c'est une victoire, mais qui arrive tard, trop tard sans doute, car elle passe après un certain Éric Zemmour, qui était à Budapest avec Viktor Orban il y a plus d'un mois.
Marie, l'international, c'est l'une des grandes faiblesses de Marine Le Pen.
Oui, c'est une grande difficulté depuis toujours, hein, et d'ailleurs ses conseillers le disent, c'est un de nos talons d'Achille. Pourquoi? Parce que la diabolisation du RN, elle existe aussi à l'extérieur. Il y a peu de chefs d'État qui acceptent de s'afficher, de discuter avec Marine Le Pen. Alors la grande question, c'est qui va-t-elle rencontrer pendant cette campagne? Quels sont les leaders qui serait Le Pen compatible et qui la recevrait? Donald Trump n'est plus au pouvoir. Matteo Salvini en Italie non plus. Vladimir Poutine, elle l'a déjà vu. Jair Bolsonaro au Brésil est jugé trop trash par le RN. Le nationaliste Narendra Modi en Inde s'est rapproché d'Emmanuel Macron pour des raisons stratégiques. Donc c'est extrêmement compliqué. Et au RN, on reste assez discret sur le sujet pour ne pas faire capoter, si j'ose dire, une éventuelle rencontre. L'épisode de la Trump Tower a laissé des traces. Hein, vous savez, en 2017, elle s'était rendue en bas du QG de Donald Trump, espérant sans doute un signe, une rencontre qui n'a jamais eu lieu. Et l'image de Marine Le Pen attablée devant son café n'avait pas été du meilleur effet.
Effectivement, les dessous de l'actu en Hongrie ce soir. Merci beaucoup Marie Mollet.
RTL Soir.
Les dessous de l'actu.
18h33.
Laissez-vous tenter, dernière.
Et au sens de séquence, laissez-vous tenter, dernière, la petite parenthèse. Bienvenue dans cette actualité chargée. Chaque soir, on va parler littérature avec Bernard Lehu aujourd'hui. Bonsoir Bernard.
Bonsoir, bonsoir à tous.
Parce que ça y est, votre saison, la saison des Grands Prix littéraires s'est ouverte aujourd'hui. Ce sont les dames du Fémina qui ont ouvert le bal des récompenses et leur prix a couronné S'adapter, le livre de Clara Dupont-Moneau.
Oui, qui, bien que finaliste, ne s'attendait pas vraiment à recevoir le prix Fémina.
Ah ben, je sortais des toilettes du restaurant et Manuel, mon éditeur, m'appelle et je sortais des toilettes et ça captait pas très bien. Et comme il parle par énigme, j'ai pas compris tout de suite.
Et que raconte son livre alors S'adapter?
Alors, Clara Dupont-Moneau signe un texte bouleversant, mais surtout pas larmoyant, sur une famille confrontée à l'arrivée d'un enfant handicapé. Et c'est vers tous ces êtres, pas comme les autres, que sont allées ses premières pensées en recevant son prix tout à l'heure.
Oh ben non, mais moi je voudrais le dédier à tous les êtres différents, qui sont quand même 12 millions en France, et à toute leur fratrie, et à tous ceux qui s'en occupent, c'est ça aussi... Ce prix, il est aussi pour eux. Ça va au-delà du livre, ce que ce prix couronne, et c'est ça qui me touche.
Jusqu'ici, Clara Dupont-Moneau avait publié des romans historiques inspirés par le Moyen-Âge. Pourquoi elle s'est intéressée à ce sujet du handicap,
hein? Eh bien, au commencement, il y a une expérience personnelle vécue par Clara Dupont-Moneau.
Oui, et ça n'est pas du tout une maladie honteuse. Nous avons eu dans notre famille un enfant handicapé qui est né, qui a vécu pas très longtemps, et nous en sommes sortis plutôt grandis, plutôt beaucoup plus riches qu'à la base. Et c'est ça aussi sur lequel je voulais insister, c'était quand même le fait que c'est une expérience de vivre auprès de ces gens-là, de ces enfants-là, extraordinairement enrichissante, parce que vous devez vous adapter. Donc la question derrière, c'est que si vous devez vous adapter à l'inadapté, ben c'est qui le plus inadapté? C'est nous aussi qui sommes inadaptés à ces différents-là.
S'adapter avec tout ce que cela comporte de difficultés, mais aussi d'amour face à l'enfant différent. Clara Dupont-Mono offre un récit lumineux sur la connaissance de soi, les liens fraternels et le triomphe de la vie. S'adapter, c'est donc le prix Femina 2021. C'est publié chez Stock.
Et la saison des prix se poursuit demain, c'est Saint-Bernard.
Ben oui, avec l'attribution du prix Médicis et surtout, on attend l'annonce des 4 finalistes du prix Goncourt.
Merci Bernard. Vous pouvez rester dans le studio, Bernard, parce qu'on va continuer à parler littérature.
De livres, si j'ai bien compris.
Il nous a aidés. Vous êtes au courant de tout, cher Bernard, parce que dans un instant, on va défaire le monde avec la joyeuse bande Cyprien Signy, Laurent Tessier, Arthur Asquin, Céline Landreau. Bonsoir les amis.
Bonsoir à tous.
Et on va parler livres politiques. Oui. Est-ce que ça se vend vraiment? Qui les achète? Réponds juste après ça, vous avez enquêté. À tout de suite.
On défait le monde, c'est dans un instant sur RTL.